France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
On connaît Raymond Queneau pour sa poésie, ses romans ou sa participation active à l'Oulipo. Mais on peut oublier qu'il a durant toute sa vie nourri un intérêt profond pour les mathématiques et voué un culte aux nombres, à tel point qu'il se qualifiait lui-même d'arithmomane. Comment cette passion dévorante pour les mathématiques s'est-elle traduite dans son œuvre littéraire et quelles recherches mathématiques des plus sérieuses Raymond Queneau a-t-il mené? Entre nombres hyper premiers, suites S additives et jeux littéraires, Science Chrono parcourt aujourd'hui la vie et l'œuvre du Queneau mathématicien. Bonjour, Roger Mansuy.
Bonjour.
Vous êtes professeur de mathématiques au lycée Saint-Louis à Paris et vous êtes l'auteur du grand almanach mathématique paru aux éditions Albin Michel. Un grand almanach dans lequel on croise, on le verra à plusieurs reprises, la figure de Raymond Queneau. Merci beaucoup de venir nous parler aujourd'hui des mathématiques de cet auteur, que ces mathématiques relèvent du jeu ou bien de la recherche. Avant de nous plonger dans l'arithmomanie de Queneau, je vous donne le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous parlerons d'une controverse assez vive qui anime les discussions dans le monde de la paléoanthropologie en ce moment. Cette controverse porte sur le crâne baptisé Yunxian II, découvert en Chine en 1990 et dont le réexamen récent reculerait la date de l'émergence de notre espèce Homo sapiens. On verra pourquoi c'est pas si simple que ça. Mais avant de nous plonger dans ce casse-tête paléo-anthropologique, revenons à notre sujet d'histoire des sciences, une histoire à la croisée aujourd'hui des lettres et des mathématiques. On va parler de Raymond Queneau et de sa passion pour les mathématiques. Roger Mansuy, je le disais, vous signez un grand almanach mathématique chez Albin Michel, au début duquel vous dites « Les mathématiques sont partout, elles font partie intégrante de notre culture et elles interagissent avec tous les domaines des activités humaines. » Alors comment vous pourriez mieux présenter encore que cela ce projet de grand almanach mathématique et comment vous pourriez le décrire de façon générale, ce livre ?
Alors, le projet est effectivement de montrer que les mathématiques sont une culture et sont dans nos cultures, un peu les deux en même temps, alors qu'on en a une image un peu stéréotypée associée à la recherche, à l'enseignement, à l'innovation. Alors, j'ai voulu montrer la diversité des activités mathématiques et puis aussi la diversité des femmes et des hommes qui les pratiquent au quotidien. Et pour cela, j'ai proposé chaque jour une petite balade autour des mathématiques, à partir des mathématiques ou avec des mathématiques, mais des balades qui vont aussi bien aller vers les pratiques sportives, la littérature, les arts et bien d'autres choses encore.
C'est comme un calendrier de l'Avent, mais pour toute l'année. À la place du chocolat, on a une histoire mathématique qui touche aussi bien à la poésie qu'à l'histoire, qu'à la politique, qu'à l'économie. C'est vraiment extrêmement riche. Et on se sent vraiment plus familier avec les mathématiques. Donc merci pour cet ouvrage-là que je vous recommande très très chaudement à vous qui nous écoutez. On en vient maintenant, Roger Mansuy, à notre figure du jour, Raymond Queneau. Comment on peut le présenter? Comment on peut présenter ce personnage-là de la littérature française du milieu du XXe siècle?
Alors la première chose, c'est que Raymond Queneau est un écrivain qui a connu le succès avec plusieurs livres dont les auditeurs ont entendu parler, comme Exercice de style ou Zazie dans le métro. C'est une figure de Saint-Germain-des-Prés, mais c'est aussi quelqu'un qui a interagi avec les milieux de la musique, du cinéma, qui a été un grand éditeur chez Gallimard, qui a une œuvre foisonnante, aussi bien avec des livres plutôt proches de romans que des recueils de poésie ou des essais. Donc c'est une personnalité multiple qu'on associe automatiquement à la littérature. Et c'est peut-être pas la seule idée pour le regarder.
À la littérature, bien sûr, au mouvement de l'Oulipo dont on parlera tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que Roger, vous êtes quand même curieux de tout. Pour peu qu'on vous suive un petit peu sur les réseaux sociaux, vous êtes tout le temps en balade. Je sais pas comment vous trouvez le temps de lire autant, de voir autant d'expositions, d'assister à autant de concerts. Bon, bref, c'est toujours un plaisir de vous suivre. Et ce que vous avez peu partagé, mais peut-être que je suis passé à côté de vos postes, mais c'est que vous êtes... Finalement, vous avez conduit une enquête dans les pas de Raymond Queneau, une enquête qui vous a amené à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris à vous coltiner l'ouverture de quelques cartons. Que contenaient ces cartons-là?
Alors, l'enquête, c'est pas tout à fait moi qui l'ai faite au départ. La Bibliothèque nationale de France a acheté un fonds Queneau dans lequel il y avait des documents relatifs à ses œuvres et un lot important de documents mathématiques.
Alors, ces cartons, il y avait, voilà. Décrivez-nous un peu ce qu'on peut trouver dans ces cartons des archives de Clunau.
Alors, on trouve de nombreux classeurs, de nombreux cartons d'archives dans lesquels il y a des milliers de pages, pas toujours très référencées ou pas très claires. Sur certaines d'entre elles, on voit des chiffres alignés étrangement, sans trop comprendre d'où ils viennent. Sur d'autres, on voit des notes de lecture. En bon éditeur, il lit des livres, aussi bien des livres de maths que des livres littéraire, proprement parlé, il prend des notes.
C'est un vrai graphomane, Clunau.
C'est un graphomane tout à fait. C'est d'ailleurs assez drôle de trouver un carton d'invitation pour un concert d'Aznavour avec au dos des informations sur un livre de mathématiques qu'il est en train de lire.
Toute une époque aussi là, qui ressurgit avec ses archives.
Voilà. Et donc tous ces documents, j'ai pu les consulter à la bibliothèque de l'Arsenal grâce à l'aide de la chef de service en charge des archives et des collections. Et on y découvre petit à petit les pratiques de Clunau, et en particulier une pratique quasiment maniaque, quasiment de l'ordre de l'obsession autour des calculs mathématiques.
Donc ça, c'est des quantités de chiffres qui se succèdent sur des pages assez énigmatiques. On va y revenir, bien sûr, puisque tout ça a une cohérence et a un sens mathématique. Ce que vous avez aussi découvert dans ces archives, c'est des correspondances avec de grands mathématiciens du XXe siècle, entre Clunau, voilà, et ces grands mathématiciens-là.
Alors, Clunau s'intéresse aux mathématiques, mais c'est pas non plus un fou qui ferait des mathématiques dans son coin. C'est quelqu'un qui aime lire, qui s'interroge, qui interagit avec la communauté mathématique. Donc effectivement, il va écrire avec Stanislas, il va correspondre avec Stanislas Ulam ou avec Giancarlo Rota, qui sont des combinatoriciens de son époque. On va trouver des échanges avec d'autres mathématiciens comme Paul Erdős, des demandes de renseignements. Est-ce que ce sujet a déjà été étudié avant moi? Voilà. Et puis d'autres documents un peu plus ciblés, quand il va vouloir écrire une biographie de Bourbaki, il va interagir avec les membres de Bourbaki, il va même se rendre à un de leurs congrès. Donc on voit que Clunau est quelqu'un qui est complètement investi dans son travail autour des mathématiques.
Roger, vous étiez venu nous parler de Bourbaki dans Sciences Chrono, donc on mettra bien sûr le lien vers ce podcast-là. On fera bien sûr aussi tout à l'heure une petite présentation de cette familiarité, de cette parenté entre Clunau et Bourbaki et ce compagnonnage-là. Il y a certains mathématiciens aussi qui font leur promotion auprès de Raymond Clunau, un certain Neil Sloan, un mathématicien américain assez important des années 1970, qui écrit directement à Clunau, et vous faites référence à ce courrier-là dans votre grand almanach. Que dit Sloan à Clunau en 73?
Alors effectivement, c'est très amusant de trouver ce courrier promotionnel. Sloan est en train d'écrire un livre sur les suites d'entiers. Des suites d'entiers, on cherche le terme suivant. Il les a mis dans un livre. Aujourd'hui, il a continué à le faire, mais c'est un site web complet qui s'appelle l'Encyclopédie en ligne des suites d'entiers. Et Sloan propose à Clunau, comme je suppose à d'autres correspondants, quelques suites pour tester leur sagacité et pour dire, si jamais vous êtes intéressé par ce genre de problème, ce genre d'énigme numérique, achetez mon livre.
Clunau était fou de nombres, ça on peut le dire, et on a intitulé cette émission Raymond Clunau, le fou des nombres. Des archives de Clunau, donc on en connaît beaucoup décrites. Vous êtes le premier témoin de cette graphomanie de Clunau qui a laissé beaucoup d'écrits. On peut entendre aussi la voix de Clunau et on peut le voir dans beaucoup d'archives audiovisuelles. En 1953, Raymond Clunau se livrait justement au jeu d'une encyclopédie filmée, réalisée pour la RTF par Pierre Caste. On commence, il faut bien commencer par une lettre, cette encyclopédie, par la lettre A, A comme arithmétique. Écoutez Raymond Clunau dans son exposé, il nous parle du zéro, c'est l'archive de Sciences Chrono.
Le zéro, l'une des découvertes les plus importantes de l'esprit humain. Voici deux bobines de fil. Je les jette par la fenêtre. J'ai fait une soustraction d'un tas de deux bobines de fil. J'ai enlevé deux bobines de fil, il reste zéro bobine de fil. Voici trois tire-bouchons. Je soustrais trois tire-bouchons. Que reste-t-il? Zéro tire-bouchon. On remarquera que si d'un tas de zéro tire-bouchons, je soustrais zéro bobine de fil, il reste zéro tire-bouchon. C, Q, F. Eh bien, le zéro, qui sert à numéroter ce qui n'existe pas, si j'en mets un à droite, il sert à numéroter les dizaines, deux les centaines, trois les milliers. Attention, si vous en mettez un à gauche, cela ne fait plus rien. Le zéro est un opérateur qui ne fonctionne qu'à droite.
Voilà, avis aux personnes qui voudraient reprendre cette entreprise d'encyclopédie filmée, ça s'est arrêté à la lettre A. Donc il y a encore du boulot à faire. Roger Mansuit, on a là une illustration d'un Queneau à la fois mathématicien sérieux et amusant, qui jette des bobines de fil par la fenêtre, des tire-bouchons par la fenêtre. Quel portrait, là, se dessine de Queneau mathématicien dans cet extrait sonore?
Alors, j'aime beaucoup le côté facétieux, en fait, de cet entretien, mais il prend quand même soin d'expliquer que le zéro, dans la numérotation de position que l'on connaît, que l'on apprend, n'a pas le même rôle selon l'endroit où on le situe, et son importance à la base de tout le calcul depuis un peu plus d'un millénaire. Mmh. Donc, il explique quelque chose très sérieusement. On est loin de ses préoccupations mathématiques à lui, mais on voit le pédagogue. Encore qu'on pourrait discuter sur le fait de soustraire, certes, zéro tire-bouchon et zéro bobine de fil. Est-ce que c'est vraiment pédagogue? Mais en tout cas, il y a un soin pédagogique, il y a une malice et il y a l'envie d'être rigoureux.
Alors, il faut parler, justement, puisque vous l'évoquiez, Roger Mansuit, les sujets mathématiques de Raymond Queneau. Vous le disiez, vous auriez pu prendre plusieurs entrées, enfin en tout cas consacrer plus que deux entrées à Raymond Queneau dans votre grand almanach. Vous avez choisi d'en garder deux. On va prendre l'entrée du 15 février qui est sobrement intitulée 13 393 939 991. Quel est le lien entre ce nombre énigmatique et Raymond Queneau?
Alors, déjà, c'est Raymond Queneau qui a donné ce nombre à François Le Lyonnais, son ami, en lui disant « c'est un nombre merveilleux, c'est un nombre qui est fantastique, c'est un nombre hyper premier à droite, c'est même le plus grand des nombres hyper premiers à droite ».
Qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier, déjà ?
Alors, justement, la notion, elle existe, la notion de nombre hyper premier, c'est Queneau qui l'invente, on n'en sait rien. Un nombre premier, c'est un nombre qui admet deux diviseurs, lui-même et un. Donc typiquement, 7 est un nombre premier, 13 est un nombre premier. En revanche, 9 n'en est pas un, puisqu'il s'écrit 3 fois 3, il a un autre diviseur qui est 3. Et donc Queneau part de cette notion qu'on connaît très bien pour imaginer des nombres hyper premiers à droite, des nombres où, en rabotant par la droite petit à petit, le nombre qu'on écrit est toujours premier. Alors on peut prendre un exemple avec 379, 3, 7, 9. 379 est un nombre premier. C'est déjà pas facile à vérifier, mais ça se vérifie. Si j'enlève le 9 à droite, il me reste 37, qui est aussi un nombre premier. Si j'enlève encore un chiffre, j'obtiens plus que 3, qui est aussi un nombre premier. Donc Queneau a rapidement l'intuition, la compréhension qu'il va y avoir qu'un nombre fini de nombres hyper premiers à droite, et il veut chercher le plus grand possible.
Donc c'est 13 393 939 991, selon lui. Mais
c'est faux. C'est une erreur. En fait, Queneau a fait ce que ferait toute personne qui veut expérimenter le sujet. Il commence par faire des calculs sur ses brouillons. Et il se rend compte que quand on arrive à des nombres à 8, 9, 10 chiffres, eh ben, les calculs pour vérifier que l'on est premier sont extrêmement difficiles. Et donc, il va demander à un ami qui dispose d'un ordinateur, on est dans les années 60, c'est encore un matériel qui est rare, de faire les calculs pour lui. Et l'ami va se tromper dans sa programmation et va lui donner un mauvais nombre, un nombre qui n'est pas hyper premier à droite. Et malheureusement, Queneau ne va pas avoir le réflexe scientifique de vérifier les calculs. Et donc on a ce nombre 13 393 939 991 qui n'est pas le plus grand nombre hyper premier à droite parce qu'il est tout simplement pas hyper premier à droite.
Alors à ça, est-ce que François Le Lyonnais, ses amis mathématiciens vont corriger Raymond Queneau? On le sait ça ou pas?
Personne ne va le voir. Personne ne va le voir dans un premier temps. C'est-à-dire Queneau va en parler à ses amis. Le Lyonnais va reprendre cet exemple dans une revue qui parle de Raymond Queneau, où il explique à quel point Raymond Queneau aime les maths. Et il faudra qu'il y ait un lecteur de cette revue qui remarque que 133 est divisible par 7, que 1339 est divisible par 13. Autrement dit, il n'y avait pas besoin de beaucoup raboter pour trouver des nombres qui n'étaient pas premiers. Donc c'est une erreur. Et à la fois, ça montre la démarche de Queneau, il s'est intéressé à un problème, il a lui-même forgé le problème, il a expérimenté à la main, quand il a une limite, il a eu recours à un outil informatique, ce que font aujourd'hui des combinatoriciennes et des combinatoriciens régulièrement, travailler sur un problème à la main. mais il n'a pas vérifié à la fin son résultat. Et là, c'est une petite erreur scientifique.
Petit bémol, donc, pour ce quenot mathématicien. La deuxième entrée, Roger Mansuy, de votre almanach, se trouve à la date du 29 avril, en référence au 29 avril 1966, où on a un texte de Raymond Queneau qui est lu à l'Académie, non pas française, mais l'Académie des sciences. Un texte, comment on peut le résumer, ce texte, qui parle de suite S additive?
Eh bien, c'est un article de recherche. Alors, dans la première version qui va être soumise à l'Académie des sciences et publiée dans le compte-rendu de l'Académie des sciences, on a un texte qui est encore préliminaire, mais il sera publié plus tard dans une authentique revue de recherche spécialisée en combinatoire. Alors, c'est un article de recherche. À la fin, il fera 41 pages. Donc, c'est un gros travail. Ouais, et c'est un travail tout à fait sérieux qui va être approuvé par différents mathématiciens et qui va être validé avec le processus habituel de validation d'un article de recherche, des rapporteurs qui vont effectivement trouver le travail intéressant et original. Et donc, il sera publié.
Comment on peut expliquer, si tant est qu'on puisse expliquer, ce principe des suites S additives à la radio, sans tableau? Roger Mansuy, c'est un petit défi, je crois.
Alors, l'objet des suites S additives, c'est considérer un ensemble de nombres et vouloir en construire un autre avec une règle précise derrière. Et donc, ce que Queneau va faire, il va fixer cette règle, c'est ce que je cache un peu en le disant ici, mais il fixe cette règle et il va expérimenter. C'est là les multiples pages, les centaines de pages que l'on a à la bibliothèque de l'Arsenal, c'est tous les tests de Queneau. Une fois qu'il aura fait tous ces tests, il va avoir une sorte de classification entre les moments où on peut prolonger effectivement indéfiniment notre suite, on peut toujours trouver un nouveau terme qu'on rajoute qui respecte notre règle de construction, et des moments où on va être bloqué. Mmh. Et donc ce sont les théorèmes que Queneau énonce et démontre dans son article de science.
Je le disais tout à l'heure, Roger Mansuy, dans ce grand almanach mathématique, vous avez consacré deux entrées à Raymond Queneau. La troisième, Niels Loh, est un peu dissimulée. Vous avez identifié plusieurs facettes de Queneau mathématicien, non pas une, non pas deux, non pas trois, mais quatre. Raymond Queneau mathématicien, quels sont ces quatre Queneau mathématiciens?
Alors, on vient déjà de parler rapidement de Queneau chercheur, mmh, avec un authentique article. On a parlé avant du Queneau qui aimait les mathématiques ludiques. C'était un lecteur de toutes les chroniques mathématiques de Martin Gardner dans Scientifique américain. C'est vraiment quelqu'un d'important. Mais il y a la partie, les affleurements mathématiques, comme le dit le Lyonnais, c'est-à-dire toutes les parties où les mathématiques vont apparaître dans ses écrits. Mmh. Et ils apparaissent de deux manières différentes, soit pour la structuration même de ses écrits, soit comme sujet. Et c'est peut-être assez intriguant de découvrir que Queneau a choisi souvent des sujets mathématiques, plutôt dans son activité encyclopédique, dans son souhait de comprendre, et que dans ces cas-là, les mathématiques qu'il va étudier, qu'il va comprendre, sont des mathématiques très élaborées, bien plus loin que les suites S additives.
Alors on va faire ce portrait un peu précis de chacun de ces Queneau mathématiciens, mais puisqu'on saute directement à ce Queneau écrivain qui se sert des mathématiques pour sa création littéraire, j'ai sous les yeux des notes préparatoires de Raymond Queneau à son premier roman, Le chien d'An, qui est paru en 1933. Alors je vous les montre, Roger Mansuy. C'est pas exactement un brouillon de Flaubert ou de Proust avec une jolie graphie et des ratures et des phrases raturées. Là, on a quoi?
On a des lignes de calcul dont on comprend pas très bien l'enchaînement, des alignements étranges avec beaucoup de 7, beaucoup de 13 qui sont là, qui nous montrent un petit peu l'aspect numérologie ou obsessif de Queneau avec certains nombres. Verlaine nous avait dit que de la musique avant toute chose et pour cela préfère l'impair. Mmh. Queneau, il a une tendance à préférer les nombres premiers. Donc plus encore que des impairs, il préfère le 7, il préfère le 13. Et c'est le découpage de son premier roman qui apparaît ici de manière un peu obscure et peu lisible. Donc le découpage en 7 parties de chacune 13 sections apparaît dans ses calculs ici.
On parlait tout à l'heure aussi en début d'émission de ses écrits célèbres comme Exercice de style, où on va avoir la même histoire racontée 99 fois dans ses exercices de style. Là aussi, Queneau ne se cache pas de son amour des mathématiques et de sa pratique des mathématiques, puisqu'il y a une ou plusieurs versions de ses exercices de style qui sont directement des versions inspirées des formulations mathématiques.
Alors tout à fait, il y a des versions probabilistes, il y a des versions géométriques. Et même dans celles qui ne sont pas clairement annoncées mathématiques, il y en a quelques-unes où on fait des permutations sur les ensembles de lettres. Le procédé intrinsèque pour la création et mathématiques.
L'histoire, on le rappelle, dans Exercice de style, c'est un monsieur qui monte dans un bus. Le bus s'appelle S, donc déjà une petite lettre qui est très très mathématique. On peut voir par exemple la version ensembliste. C'est dans un autobus S, considérons l'ensemble A des voyageurs assis et l'ensemble D des voyageurs debout. Là c'est vraiment un petit jeu. À un certain arrêt se trouve l'ensemble P des personnes qui attendent, soit C l'ensemble. Bon, je vous passe la suite parce que après Queneau déroule. Il cherche toujours finalement en fait Raymond Queneau dans ses écrits. D'une certaine façon, à appliquer des règles arithmétiques. Il parlait, lui, d'une forme d'arithmomanie. Il se décrivait, comme je le disais en introduction de cette émission, comme un arithmomane. Qu'est-ce que c'est un arithmomane ?
Alors, d'un point de vue plutôt médical, c'est quelqu'un qui serait obsédé par les nombres. Quelqu'un qui aurait besoin de faire des calculs à différents moments de sa vie pour prendre une décision ou simplement pour des aspects ordinaires. Monter à l'étage de la maison de la radio serait compter le nombre de marches ou le nombre de pas que l'on ferait selon la taille de nos pas. Chez Queneau, c'est une fascination pour les nombres qui est double. Il y a un aspect un peu numérologique. Il aime bien donner du sens aux nombres. Il aime bien leur donner une couleur littéraire. Je vais le dire comme ça, même si c'est pas tout à fait de la synesthésie. Mmh. Et il y a le côté mathématique où se rendre compte que si on veut des personnages qui apparaissent de manière récurrente, qu'on veut une certaine périodicité dans le récit, il va falloir choisir des nombres, des structures qui sont pas tout à fait anodines.
C'est intéressant parce que du coup, ça fait revoir l'œuvre de Raymond Queneau comme un code secret. Après le Da Vinci Code serait le Queneau Code. On peut écrire à Dan Brown et lui dire de se plancher sur l'œuvre de Queneau qui serait, voilà, sous-tendue par une architecture très mathématique. Ça, c'est la partie, bien sûr, émergée de l'iceberg. Raymond Queneau, écrivain, auteur de littérature. Il y a la partie dont on parle aujourd'hui, Roger Mansuy, qui est moins connue, celle de ce Queneau qui s'intéresse aux problèmes mathématiques de son temps, qui a une culture mathématique évidemment encyclopédique. Encyclopédique, lui, il l'était et il aimait cette approche-là. Il y a Raymond Queneau, encyclopédiste des mathématiques.
Alors, officiellement, encyclopédiste des mathématiques, non. Mais il a eu en charge l'encyclopédie de la bibliothèque de la Pléiade, où il a écrit la partie encyclopédie littéraire, mais où il a repris, il a surveillé, évidemment édité, toute la partie scientifique, ce qui l'a amené à lire beaucoup de livres mathématiques de l'époque. Mmh. Raymond Queneau a lu des traités d'Eilenberg, a lu des livres de topologie, a pris des notes sur des livres de topologie. Il a aussi lu beaucoup de textes de logique formelle. Et là, on se rend compte que Queneau est passionné d'une certaine manière par l'abstraction, la plus grande abstraction, que ce soit dans la théorie des ensembles façon Bourbaki, la topologie moderne. Là aussi, il va s'intéresser à ce que s'écrit Bourbaki sur les espaces vectoriels topologiques, ce que je ne conseille pas forcément à quelqu'un qui voudrait découvrir Queneau. Mais il va aussi s'intéresser à la logique formelle. On a des pages où il recopie des manuels de logique formelle. C'est quelque chose qu'on n'attend pas chez un homme de lettres.
Puisque vous parlez de Bourbaki, Roger Mansuy, quels étaient les liens de Raymond Queneau avec ce groupe de mathématiciens réunis, on le rappelle, derrière ce nom de Bourbaki ?
Alors, il y a un certain intérêt pour le travail de Bourbaki, un intérêt à la fois historique, il s'intéresse à comment Bourbaki a émergé, d'où viennent les idées de Bourbaki, sur la façon dont il travaille. C'est pour ça qu'il va aller rejoindre un congrès en 1962. Mmh. Un congrès où je ne sais pas ce qu'il a pu comprendre effectivement comme maths quand on lit le compte-rendu dans les archives de Bourbaki. Et puis, il va faire un portrait de Bourbaki, un des meilleurs portraits littéraires de Bourbaki, où il expliquera justement toute la dynamique de ce groupe et tout l'intérêt pour les mathématiques de demain, comme il le dit lui-même.
C'est quoi justement ces thématiques favorites dans ces mathématiques très contemporaines auxquelles il se confronte et qu'il se coltine lui-même ?
Alors, c'est l'abstraction, c'est réussir à manipuler des structures qui seraient indépendantes de l'objet qu'on est en train de regarder. Alors, c'est un peu abstrait dit comme ça, mais ça correspond à la fois à ce que l'on voulait en mathématiques à ce moment-là et ce que lui, pour d'autres raisons, plus l'étude de la linguistique quantitative, rêve de faire, c'est-à-dire avoir une théorie formelle qui expliquerait la façon dont la littérature, en tout cas la linguistique, peut être comprise.
En 1976, donc l'année de la mort de Raymond Queneau, paraît un article qui s'appelle « Les fondements de la littérature d'après David Hilbert » par Raymond Queneau. David Hilbert, ce n'est pas spécifiquement Gérard Genette, un critique littéraire réputé.
Pas tout à fait, non, effectivement. Donc, David Hilbert est un des plus grands mathématiciens au tournant du 19e, 20e siècle. Et c'est quelqu'un qui avait le rêve de pouvoir décrire les théories mathématiques à partir d'éléments de base, à partir d'axiomes. Donc, il fait le rêve de pouvoir comprendre l'arithmétique et de pouvoir comprendre les mathématiques de manière générale à partir de systèmes axiomatiques formels, pour le dire un peu brutalement. Et le rêve mathématique s'est un peu effondré dans les années 30 avec les théorèmes de Gödel qui montrent que cette ambition est impossible. Mais Queneau le conserve, en fait, conserve un certain attachement à cette démarche, à cette idée, et rêverait lui aussi de pouvoir le faire pour la langue.
Donc Queneau, il garde en fait cette ambition d'avoir une espèce de cahier des charges, de mode d'emploi mathématique qui serait à la source de toute création littéraire et qui lui permettrait finalement de combiner, d'avoir cette espèce de machine à produire de la littérature de façon infinie.
Alors, je sais pas si on dépasse pas un peu son ambition en disant est-ce qu'il veut vraiment produire la littérature ainsi, lui qui a une pratique très intime aussi de l'écriture, peut-être quelque chose. Mais vouloir la décrire, vouloir la comprendre, qu'est-ce que c'est qu'une phrase? Qu'est-ce que c'est qu'une phrase correcte? Ça, c'est une phrase que les grammairiens peuvent se poser, mais que nous aimerions l'avoir d'un point de vue plus formel.
On n'a pas trop parlé encore de ce mouvement célèbre pour les Pérec, les Jacques Roubaud, les Queneau, bien sûr, l'Oulipo, qui est créé en 1960 autour de la figure de François Le Lionnais, qui était un ingénieur chimiste de formation, mais qui se présentait lui-même souvent comme un mathématicien. Qu'est-ce qui attire Queneau dans les mailles mathématiques de l'Oulipo? Comment décrire ce collectif-là qui va justement avoir recours à des contraintes extra-littéraires pour produire de la littérature, pour écrire de la littérature?
Alors, le collectif, il l'a décrit en disant c'est des rats qui font le labyrinthe dont ils vont proposer de se sortir. Pour lui, ça correspond à ce qu'il faisait déjà 30 ans auparavant avec le chien dent. C'est-à-dire se donner des contraintes formelles, des contraintes arithmétiques, des contraintes structurelles qui vont permettre d'avoir une création différente. Autour de lui, autour de Le Lionnais, un certain nombre de personnes vont se rassembler qui partagent cette idée de la contrainte créatrice. Et toutes ces personnes vont avoir un rapport aux mathématiques qui n'est pas négligeable. Alors on pense évidemment à Pérec, qui a beaucoup utilisé et qui a beaucoup médiatisé ces structurations, ces contraintes mathématiques dans ses différents livres. On peut penser à Jacques Binns avec ses poèmes irrationnels. Mais ils sont assez nombreux. On a Claude Berge qui, lui, est un spécialiste, un vrai mathématicien à proprement parler, vu que c'est quelqu'un qui vit des mathématiques, qui est dans ce groupe, qui est plus spécialisé dans les mathématiques discrètes et la théorie des graphes. Et tous ensemble, en fait, ils vont essayer de réinventer des styles d'écriture, réinventer des façons d'apprécier la langue en utilisant des mathématiques.
Ils vont prouver que rigueur et imagination marchent main dans la main et qu'il n'y a pas forcément d'un côté les poètes aux cheveux fous et de l'autre les matheux qui planchent sur des problèmes insolubles. Et voilà, ils vont rassembler tout ça dans ce courant littéraire et dans votre grand almanach des mathématiques. Votre grand almanach mathématique, pardon, je m'en suis. Il n'est pas question que de Raymond Queneau. On peut aussi trouver des extraterrestres, un style de musique qu'on appelle le matrock, des jeux de dés, de la poésie. On va parler de la série Futurama, d'une championne olympique ou encore, parce que j'ai pas le temps de faire la liste complète, de la Tour Eiffel. Et il faut bien le dire, on se sent bien plus proche des mathématiques. Après l'avoir lu, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui nous donner un avant-goût de cet almanach à travers ces histoires mathématiques de Raymond Queneau.
Merci beaucoup.
aggressive nature and deep fascination for numbers. And a complete infatuation with the calculation of pi.
Pi, Pi, une reprise de Kate Bush par Anne-Sophie Von Otter pour tourner la première page de Science Chrono. On se tourne à présent vers le deuxième temps de cette émission et on va parler d'une controverse en paléoanthropologie.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
À la fin des années 1980, étaient retrouvés en Chine, sur le site de Yunxian, deux crânes datant d'il y a environ 1 million d'années. Si on attribuait jusqu'à présent ces crânes à Homo erectus, une étude récemment parue dans la revue Science vient semer le doute en les rapprochant cette fois d'Homo longi, une espèce qui serait un proche parent d'Homo sapiens. Cette attribution du crâne de Yunxian 2 à Homo longi contribuerait, on va voir pourquoi, à reculer l'émergence de sapiens à environ 1 million d'années, soit 400 000 ans plus tôt que les estimations actuelles. L'annonce fait légitimement grand bruit, mais l'étude semble largement critiquable pour beaucoup de paléanthropologues. Quelles sont les raisons de cette méfiance vis-à-vis de cette annonce fracassante? Et que nous dit cette controverse sur la mission toujours difficile de classification des espèces appartenant au genre Homo? Amélie Viallet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléanthropologue, maître de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle, et vous avez travaillé sur ces crânes de Yunxian dans le cadre de votre thèse, et évidemment plus tard. Donc vous avez également proposé en 2010 une modélisation 3D de ce crâne de Yunxian 2 qui fait grand bruit en ce moment, autant dire que vous étiez la personne qu'il nous fallait pour nous aider à comprendre pourquoi cette étude récente doit être prise avec beaucoup de pincettes. On va parler d'une période de temps qui est un peu casse-tête pour les paléoanthropologues dont vous faites partie, Amélie Viallet. Avant de nous plonger dans cette actualité, j'aimerais tout de même qu'on fasse un bref rappel historique sur les découvertes paléoanthropologiques importantes qui ont été réalisées en Asie et plus particulièrement en Chine depuis le XXe siècle. Quelles sont ces grandes découvertes qui ont jalonné l'histoire de la paléoanthropologie asiatique et chinoise depuis une centaine d'années ?
Mais c'est vrai que peut-être on ne le sait pas beaucoup, mais finalement, la paléanthropologie, les recherches ont été très actives en Chine bien avant l'Afrique de l'Est. Il y a eu cette ruée vers l'os, hein, comme disait le professeur Yves Coppens, vers l'Afrique de l'Est, mais bien avant, c'est-à-dire dans les années 30, 1930, à partir même quasiment des années 20, c'est là qu'on fait les premières découvertes d'éventuelles présences humaines très anciennes en Chine, pas très loin de Pékin. Ça va être l'homme de Pékin, hein, notamment.
Sinanthropus.
Pékinensis, c'est-à-dire le site en fait de l'homme de Pékin, le site de Zhukudian, voilà, qui va être découvert à partir de 1927, va être fouillé jusqu'en 1937, et vraiment à cette époque, on a une petite communauté déjà très internationale, avec des savants voilà, du monde entier, notamment nous on a pour la France, notre représentant c'est Pierre Teilhard de Chardin, qui est sur place, qui justement a lui un petit peu prospecté dans tout le bassin du fleuve Jaune, a une très bonne notion de la géologie du Quaternaire, mais tout ça, c'est des connaissances qu'il a accumulées, qu'il a acquises par son terrain, et donc il devient une référence. Et quand la décision est prise de fouiller le site de Zhukudian en 1927, on l'appelle lui comme conseiller scientifique.
C'est un site Zhukudian qui est particulièrement riche en vestiges. On retrouve, si j'ai bien compris, 183 fossiles humains qui ont depuis été perdus, mais c'est quand même significatif.
Ah oui, c'est un site magistral parce que en fait, c'est une ancienne grotte effondrée, mais dont on a le remplissage sur à peu près une trentaine de mètres de haut, donc c'est un volume considérable. Et justement, parce qu'il y a déjà cette connaissance, parce qu'il y a voilà, cette équipe internationale, la gestion des fouilles va être assez exemplaire pour l'époque, parce qu'on va fouiller en ayant une espèce de carroyage, de repérage dans l'espace. Donc on fouille par strates, on sait d'où proviennent les fossiles qu'on découvre. Et en effet, les fossiles humains vont être au rendez-vous. Alors pas tout de suite, hein, finalement, le premier crâne, c'est 1929. Mais ensuite, il y a une petite série d'une douzaine de calottes crâniennes plus ou moins fragmentaires, mais qui sont mises au jour avec beaucoup de dents isolées, beaucoup de restes post-crâniens. Donc c'est une très belle série, évidemment, anthropologique, qui tout de suite se montre très primitive, archaïque dans sa morphologie. Donc en effet, va donner lieu à la création d'un nouveau genre, le Sinanthropus pekinensis, voilà, qu'on va globalement ensuite rattacher à ce qu'on a défini un peu plus tard comme Homo erectus.
Alors, du coup, c'est le premier représentant d'Homo erectus, vraiment, ce
Sinanthropus? Oui, alors, pas tout à fait, parce que que de ce fait, quelques années auparavant, sur une petite île en Indonésie, donc l'île de Java, hein, pas très loin de Bornéo, voilà, de l'Australie, dans cette zone de l'Asie du Sud-Est, là, on a une autre histoire assez quand même rocambolesque. C'est un jeune médecin hollandais qui est passionné justement de paléontologie, qui a lu les écrits de Haeckel, Darwin, et on est à un moment où on n'a pas encore de fossiles humains, et il comprend par ses textes que c'est dans une zone tropicale, sans doute insulaire, etc., qu'on peut faire des découvertes. Et donc, il est hollandais et il profite en fait du protectorat de la Hollande sur l'île de Java à l'époque pour être muté là-bas. Mmh. Il est médecin militaire sur place, mais il passe son temps en fait à prospecter les rives des fleuves, à essayer de trouver des fossiles, et il les trouve. C'est ça qui est incroyable. Et là, on est en 1891, donc on est avant Zhoukoudian en Chine. Et là aussi, ce qui met au jour, c'est une calotte crânienne, un os du fémur qui est assez comparable au nôtre, d'où l'idée qu'on a cet homme singe qui se tient debout. Donc il va l'appeler justement lui Pithecanthropus erectus, de station érigée. Et donc on a en fait deux comme ça, on a deux lieux où, si vous voulez, vont être sur une à quelques décennies d'écart découverts des fossiles assez comparables. Et justement, à partir des années 40, on va commencer à rapprocher ces fossiles qu'on a sur l'île de Java, ces fossiles qu'on a à Zhoukoudian, considérer qu'ils ont quand même beaucoup de caractères morphologiques communs. Ces petits individus, ils ont des calottes crâniennes assez allongées, assez basses, puis ils ont tout un tas de petits caractères, comme un gros bourrelet au-dessus des orbites ou à l'arrière-crâne, etc., qui les définissent bien comme étant donc des Homo erectus.
Si on poursuit donc dans cette histoire de la paléanthropologie en Chine, la période maoïste n'est pas une période dépourvue totalement de découvertes paléanthropologiques et archéologiques.
Voilà, malheureusement, parce qu'en fait, justement, c'est une période pour la Chine de très grande fermeture par rapport à la collaboration internationale. Le pays est vraiment impénétrable jusqu'en 1981, quelque chose comme ça. Et pourtant, sur cette période de temps, il va y avoir quelques découvertes de fossiles qui sont des fossiles un peu clés pour l'évolution humaine. Mais ces découvertes, elles se font à un moment où c'est pas trop la priorité, peut-être scientifique, politique, sur place, mais en plus où il n'y a vraiment aucun contact avec l'extérieur, avec la collaboration internationale. Et ça, c'est important quand même, parce qu'on a besoin d'avoir en fait cette espèce un peu de contrôle les uns sur les autres, mais aussi d'apport de pratiques différentes ou d'interprétations. C'est toujours bien quand ça se fait dans un cadre très ouvert. Or là, justement, on va se retrouver maintenant avec des fossiles, comme le fossile de Dali, dont on reparlera, parce que dans l'histoire d'Homo Longhi, il a son rôle aussi maintenant. Et ce fossile de Dali, il est bien conservé, mais sa provenance stratigraphique, c'est-à-dire dans le gisement lui-même, elle est toujours un peu douteuse, parce que le contexte de découverte est un petit peu vague. Donc, si vous voulez, vous avez beau à ce moment-là faire des analyses pour préciser la stratigraphie, par exemple, tant que vous avez un doute sur la provenance stratigraphique, évidemment, vous avez un doute sur le fossile lui-même. Donc, on se retrouve avec des fossiles comme Dali, comme Mappa, qui sont importants, mais pas confortables pour travailler avec, grosso modo. Alors que, c'est vrai qu'après les années 81, notamment donc, le professeur Henri de Lemley va être un des premiers à retourner en Chine, et donc la relation va se retisser, notamment entre la France et la Chine pour la paléanthropologie, et le site de Yongxian s'inscrit complètement dans ce contexte-là. Alors on est plutôt dans les années 89, 90, 91 pour les découvertes à Yongxian, mais là justement, Henri de Lemley va pouvoir, avec son équipe, travailler avec les collègues chinois sur place et au moment des fouilles en fait elles-mêmes, donc vraiment sur le terrain, et développer ce qu'on fait maintenant en routine, c'est l'approche pluridisciplinaire pour avoir des datations, des contextes de stratification, et pouvoir bien comprendre l'ensemble du site.
Parlons de l'importance de la découverte de ces crânes de Yongxian. Au moment où elle est réalisée, qu'est-ce que ça change dans l'histoire de la paléanthropologie? Qu'est-ce que ça vient apporter comme élément d'information, en tout cas, sur l'évolution des espèces appartenant au genre Homo?
Oui, peut-être pas tant de choses que ça. En fait, tout de suite, il y a une première étude qui paraît dans Nature, justement, en 92, et qui met tout de suite en avant quand même la morphologie de ces fossiles humains, qui n'est pas tout à fait celle qu'on attend, parce qu'ils ont notamment une face qui est une face un peu plate, un peu haute, qui peut être dite moderne, enfin proche de celle des Homo sapiens. Donc en fait, tout de suite, en effet, il y a ce côté qui interpelle, c'est que c'est pas vraiment un Homo erectus, enfin il n'a pas la forme totalement attendue, et on lui donne à ce moment-là une ancienneté assez importante. Mais voilà, on ne pousse pas plus loin, j'allais dire, les conclusions. En revanche, c'est vrai que grâce à cette coopération internationale notamment, on va avoir des bonnes conditions d'études et on va avoir des datations assez précises, alors qu'on peut toujours affiner, il y a des travaux en cours pour essayer d'affiner ça, mais globalement, entre, si vous voulez, la faune, les ossements d'animaux qui sont associés, ils sont très nombreux, c'est une très belle faune, entre ces éléments de faune qui vont vous donner une période de temps autour d'un million d'années, parce que le stade de développement de ces espèces est assez caractéristique, et puis les datations qu'on peut faire justement sur les séries de l'uranium à partir des dents d'équidés par exemple, ou bien l'étude qu'on peut faire du paléomagnétisme avec ces grands changements de paléomagnétisme au cours du temps qu'on peut déterminer dans la séquence, tout ça, ça corrobore quand même une datation qu'on peut proposer autour d'un million d'années. Donc là, c'est vrai que dès les années 90, on se retrouve avec ces fossiles qui sont quand même les plus anciens en Asie continentale et donc notamment en Chine.
Est-ce qu'on peut le décrire plus en détail, ce site, parce que ça a son importance, cette sédimentation, sur les fossiles en eux-mêmes?
Exactement, oui, c'est ça la clé tout à fait. C'est que c'est un site fabuleux. Parce que c'est un bord de fleuve, hein, c'est une ancienne terrasse fluviatile. Donc aujourd'hui, en fait, elle se retrouve un peu perchée, hein, parce que le fleuve s'enfonce au cours du temps. Et donc, il faut imaginer ces fleuves à grande dynamique. Hein, on est à un endroit un peu de méandre. Donc à un moment, le fleuve a dû charrier en fait une espèce de crue d'événements catastrophiques et a dû embarquer des carcasses animales et même des humains, mm-hmm. hein, puisqu'on a deux crânes bien complets, et les a donc déposés sans doute sur ce méandre, à cet endroit un peu plus calme. Donc, les carcasses vont s'entasser là, y compris, en effet, ces deux crânes humains. Chaque ossement est quand même baigné quand même dans cette eau, donc acquiert une certaine plasticité. Et en effet, après, ça va sédimenter au-dessus. Et ça va sédimenter, bon, c'est la Chine, hein, les phénomènes géologiques sont de grande ampleur, donc c'est 12 mètres de sédiment qui va venir peser pendant au moins un million d'années.
Et sur malaxé comme voilà, de la pâte à modeler ces crânes-là.
Surtout appuyé sur des éléments un peu plastiques, et donc il y a une forme aussi de compaction qui a lieu, qui fait que vous avez une espèce de grosse gangue de concrétion autour de ces ossements, ce qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs, vous les retrouvez bien, parce que quand vous tombez sur ces grosses gangues un peu informes, vous savez que dedans, il y a des ossements. Mmh. Et c'est comme ça que les collègues chinois très récemment, puisque les fouilles sont toujours en cours de ce site, en 2022, ils ont très tôt identifié qu'ils étaient en train de découvrir un troisième crâne humain. Donc, évidemment, c'est un site fabuleux parce qu'on a déjà deux crânes maintenant, trois crânes humains, et ils sont assez complets. En revanche, ils sont très déformés puisque cette plasticité, cet empilement de couches, etc., ce poids pendant un million d'années a fait qu'ils sont aplatis.
Alors, Amélie Vella, en quoi cette déformation est cruciale à comprendre et en quoi est-elle cruciale finalement dans le débat qui se joue aujourd'hui autour de ce crâne de Yunxian 2?
Eh bien, parce que on a les outils aujourd'hui, et depuis ma thèse qui remonte déjà maintenant à une vingtaine d'années, mais à l'époque c'était un peu le début, on utilisait en fait la tomographie, c'est-à-dire les rayons X, hein, comme le scanner qu'on passe à l'hôpital. Maintenant on a des micro-scanners donc à très haute résolution, et on utilisait l'imagerie 3D donc virtuelle pour pouvoir virtuellement, c'est-à-dire sans toucher les originaux bien sûr, rétro-déformer, c'est-à-dire compenser les altérations, les déformations, les fractures sur le spécimen en question.
Cette compensation, c'est déjà une forme d'interprétation finalement.
Exactement. C'est totalement lié, c'est-à-dire qu'en fait, il vous faut trouver les moyens. Donc moi, j'ai travaillé sur le crâne de Yunxian 2, qui est l'objet de la nouvelle étude, parce que justement, on a considéré que c'était le moins déformé. Parce que le crâne Yunxian 1, je pense que la face est très bien conservée, ce qui est très important, il faudrait y revenir. Mais le crâne, lui, est complètement aplati, il fait à peine 10 cm de haut, donc c'est vraiment une crêpe, comme on dit. Voilà, donc on a travaillé sur Yunxian 2 parce qu'il semble mieux conservé. Mais ceci dit, il est aplati. Donc, le crâne étant aplati, vous allez forcément lui redonner une forme un petit peu plus globuleuse. Mais où est-ce qu'on s'arrête? C'est de la déformation plastique. Donc, comment est-ce qu'on rétro-déforme ce... Donc, il vous faut trouver, en fait, les arguments qui vont vous donner les limites un peu des manipulations que vous allez faire. Et donc, déontologiquement, quand vous travaillez à reconstitution, il faut absolument que vous argumentiez chaque étape et que vous documentiez chaque étape pour que chacun puisse apprécier, en fait, ce que vous avez fait comme choix, et aussi puisse un petit peu apprécier les limites, en fait, de votre proposition. Et une reconstitution, c'est toujours une hypothèse. Mmh. Et dans le cas présent, dans la nouvelle publication, en fait, il y a une reconstitution avec vraiment des moyens techniques qui sont spectaculaires et qui, à mon avis, font un peu illusion, parce que il y a des choses très simples, par exemple, comme ces fossiles sont des pierres, vraiment des pierres, et elles ont totalement fossilisé. Donc, heureusement, sédiment, et Yunxian 2 par exemple était sans doute rempli de ce sédiment alluvial, et l'ensemble de ce sédiment avec le crâne, avec l'os, le tout a sédimenté ensemble. C'est pour ça que ça s'est conservé en fait. Yunxian 1 devait être moins rempli de sédiments et le crâne s'est complètement aplati. Hein. Et donc ce sont devenus des pierres. Donc que vous utilisiez, si vous voulez, du rayon X conventionnel ou à haute résolution, en fait, vous avez une limitation qui est physique. Et les rayons X, ils n'arrivent pas à pénétrer la pierre. Et quand il la pénètre, le coefficient d'atténuation, il n'est pas terrible.
Alors Amélie Viallet, avant qu'on en vienne à cette étude toute récente qui fait beaucoup parler d'elle, vous, vos travaux, quelles conclusions vous en aviez tirées et qu'est-ce que ça vous avait permis finalement de faire comme catégorisation de ce crâne de Yunxian 2? À quelle famille du genre homo l'aviez-vous rattaché à partir de ce travail de modélisation 3D?
Donc, alors, très, pour répondre simplement à Homo erectus, mais il faut nuancer un petit peu parce qu'en fait, c'est vrai que moi, j'ai comparé justement le fossile dans son état actuel, hein, déformé, tel qu'il est conservé, avec d'autres Homo erectus autant que possible. Et j'ai pu montrer comme ça quelles étaient les parties en fait, du crâne, les parties de la voûte. Hein, j'ai travaillé segment par segment pour voir ce que, les parties qui rentraient dans la variabilité erectus. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça, c'est des parties pas trop déformées. Et puis, les parties qui sortaient complètement de la variabilité. Et là, si ça sort complètement de la variation, il y a deux possibilités. Soit c'est en effet artificiellement déformé par l'histoire de fossilisation, soit bah, c'est le petit caractère particulier de ce fossile qui sort complètement de sa variation Homo erectus. Voilà. Donc là, il a fallu faire des choix à chaque fois. Moi, j'étais quand même assez convaincue que c'était un Homo erectus. Il a 1 million d'années, il a quand même une forme globalement basse, allongée, etc. Et je dois avouer, et je le cite en exemple à mes étudiants quand j'enseigne, je dois avouer que 20 ans après, j'ai plus tout à fait la même idée. Et je me rends compte qu'en fait, c'est parce qu'il y a 20 ans, eh ben en fait, il y avait une séparation assez nette entre les travaux qu'on faisait en Europe de l'Ouest, on va dire, hein, et puis tout ce qui se passait en Asie, et que ben, on ne comparait pas beaucoup les formes entre elles d'Asie et d'Europe, en fait, où on n'allait pas jusqu'au bout en fait, des interprétations ou des résultats qu'on obtenait de ces comparaisons. Donc, il y avait quand même deux mondes séparés. Ouais. Voilà, et ça, c'est il y a 20 ans, on ne s'en rendait pas forcément compte. Et donc, moi, je vois, par exemple, dans l'échantillon de comparaison que j'ai utilisé que des Homo erectus asiatiques. J'ai très peu travaillé avec des comparaisons avec les Européens, par exemple.
Voilà. Il y a 20 ans aussi, Amélie Viallet, on n'avait pas encore découvert l'homme de Denisova. On va voir que ça a son importance aussi dans cette compréhension et dans ce réexamen, finalement, du crâne de Yunxian 2. Cette étude-là, donc, est parue récemment dans la revue Science. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment cette équipe internationale, mais composée beaucoup de chercheurs chinois, va finalement essayer de réécrire du coup l'histoire de Yunxian 2?
C'est-à-dire qu'il y a deux grandes parties dans cette étude. Il y a la partie reconstitution, donc il y a une nouvelle reconstitution de Yunxian 2 qui est proposée, avec, je vous disais, des moyens techniques importants. Mais justement, moi je pense que ce qui manque beaucoup, c'est l'argumentation des choix qui sont faits. Il y a un exemple très précis, et c'est vrai qu'il faut peut-être avoir vu manipuler ces crânes pour focaliser là-dessus, mais je pense que c'est déterminant. C'est quand vous regardez le front de cet individu, il y a deux parties. Il y a une partie aplatie, et puis il y a une partie de l'écaille, on dit de l'écaille frontale, donc la partie gauche, qui est surélevé. Tout de suite, vraiment, vous posez la question, vous dites laquelle est la bonne. C'est-à-dire, est-ce que, en fait, il faut que la partie aplatie soit surélevée pour coller avec la partie surélevée et qu'on ait donc un front un petit peu convexe? Ou est-ce qu'au contraire, cette partie convexe, c'est celle qui a été artificiellement surélevée et qu'il faut la rabaisser? Moi, c'est ce que j'avais démontré. Que justement, ce crâne, enfin cette partie du crâne n'était pas convexe. Or, c'est un critère pour l'évolution qui est déterminant. C'est un critère déterminant parce que si vous avez un front aplati, c'est plutôt un caractère primitif, donc on va dire Homo erectus. Et si vous avez un front qui est convexe, ça tend à notre front à nous qui est complètement vertical, qui est donc plutôt, on va dire, Homo sapiens. Là, dans la reconstitution qui est proposée, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas parce que ça n'est pas expliqué quel est le choix qu'ils ont fait. Et on a même essayé de superposer un peu les images, etc., pour essayer de comprendre les manipulations qui avaient été faites. Et ça n'est pas très clair. Ça n'est vraiment pas clair. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont quand même conservé la convexité de l'écaille frontale. Donc après que dans leurs analyses, ce fossile tombe plutôt proche des Homo sapiens, bah c'est pas étonnant si, quelque part, on l'a un peu reconstitué en favorisant ces caractères.
On en vient justement à ce que je disais en introduction de cette émission. Ce réexamen du crâne de Yunxian 2 vieillirait de plus de 400 000 ans l'émergence d'Homo sapiens. voilà, les grands titres un peu, enfin les grands titres peu scrupuleux justement, ont tout de suite crié, voilà, en disant Homo sapiens aurait 1 million d'années. Alors, comment, à partir de ce réexamen de Jungsian 2, peut-on dire que Homo sapiens serait, parce que là le conditionnel est nécessaire, plus vieux que ce qu'on croyait?
Alors, donc, c'est la deuxième partie de l'étude, qui est une étude, on appelle ça phylogénétique, c'est cladistique, c'est-à-dire c'est vous observez les caractères, alors morphologiques, les dimensions, etc. Vous faites toute une matrice de caractères que vous allez observer sur différents crânes, et vous codez l'expression de ces caractères, hein, ou vous transformez le métrique en non métrique, etc. Enfin, il y a toute une méthodologie pour ça. Et justement, il y a des choix qui sont faits à chaque étage. Parce que vous choisissez les caractères, vous choisissez de les coder en 0, 1, 2, 3, 4. C'est pas pareil si vous les codez que en 0, 1 et en 0, 1, 2, 3, 4. Parce que si vous avez plus de catégories, forcément, vous avez une expression d'une plus grande variabilité. Or là, ils ont tout codé en 0, 1. Donc ça limite énormément, ça contraint énormément. Et puis, dans cette analyse, par exemple, on va avoir à la fois des restes crâniens, mais aussi des restes mandibulaires. Moi, je trouve que c'est très étonnant, dans une analyse, de pouvoir avoir des caractères sur le crâne et sur la mandibule. Jungsian n'a pas de mandibule, par exemple. Or, il se retrouve pas loin de fossiles comme Xiae, qui est une mandibule. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est possible, parce qu'en fait, on va coder des caractères comme étant manquants. Mais du coup, ces caractères manquants, ils ont un certain poids dans l'analyse. Et en fait, vous allez comme ça contraindre un petit peu, ou si vous voulez biaiser un petit peu les résultats. Alors, moi, j'aime la cladistique, je pense que c'est une bonne approche, hein, c'est intéressant. Il faut pas en revanche prendre les résultats pour argent comptant, c'est bien ça. Il faut pouvoir les mettre un peu en perspective, les nuancer. Et donc, pour ça, il faut un petit peu comprendre comment l'analyse a été menée. Et je trouve que justement, là, les résultats sont quand même très peu mis en perspective.
Ces résultats-là, du coup, comment, j'en viens à ma question, Amélie Vialet, comment ils réécrivent d'une certaine façon le passé extrêmement lointain de l'émergence d'Homo sapiens, puisqu'il n'est pas question d'Homo sapiens. Là, on n'attribue pas ce crâne de Jungsian 2 à Homo sapiens, on le rappelle, mais comment ça conduit les chercheurs à dire bah, peut-être que Homo sapiens aurait émergé plus tôt.
Donc là, il nous faut passer par Homo longi.
Autre découverte.
Voilà. Et Homo longi, bah, c'est encore une découverte un petit peu étonnante. Hein. C'est le crâne de Harbin qui a été redécouvert tout d'un coup parce qu'il avait été caché.
En 2018.
Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un crâne assez complet, très bien conservé, qui a pu être, grâce vraiment au progrès scientifique, méthodologique, analytique actuel, a pu être daté parce qu'il restait un petit peu de concrétion sur le crâne. Donc on a un peu son ancienneté autour de 150-200 000 ans. Voilà. Donc c'est une très belle découverte, même si là encore, bah voilà, elle manque beaucoup de contexte. Hein. Et donc ce crâne a été décrit par une partie de la même équipe que celle qui signe l'article de Science aujourd'hui. Et donc, a été décrit sur la base aussi d'analyses pareilles phylogénétiques comme représentant d'une nouvelle espèce, c'est-à-dire Homo longi. C'est quelque chose qu'on peut déjà un petit peu critiquer pour les mêmes raisons. Hein, c'est-à-dire, dans une analyse phylogénétique, on met certaines choses, il y a des limites, etc. Finalement, on ne dit pas assez en fait que c'est une hypothèse et que, voilà, à partir de là, on peut réfléchir et ouvrir la discussion. Et en fait, moi, ça m'a étonnée parce que ce crâne de Harbin, il est très proche du crâne de Dali, dont on a parlé rapidement tout à l'heure, qui a été trouvé dans les années 80. Et pourtant, dans leur argumentaire, ils essaient d'expliquer que c'est pas tout à fait le cas et qu'en fait il faut pas tenir compte de Dali, et donc dans cette Homo longi on ne met pas Dali, alors que vraiment les fossiles semblent assez proches. Pourquoi? Eh ben peut-être parce que si on avait intégré Dali, les collègues chinois étaient obligés de se conformer à la nomenclature zoologique internationale qui veut que s'il existe déjà un nom d'espèce, il faut l'utiliser. Et Dali avait déjà été décrit, parce que c'est un spécimen quand même un peu particulier, comme étant un Homo daliensis, et donc il aurait fallu utiliser ce nom d'espèce. Voilà. Donc déjà, il y a tout ça qui est un petit peu complexe. Et finalement, bah, quand on prend un peu de recul, justement, moi, dans les années 2000, bah, j'étais en plein dans cette littérature de controverse sur ce que pouvaient être ces fossiles, Dali ou Harbin, ces fossiles voilà, autour de 200 000 ans, on va dire, et qui, en fait, ne sont pas strictement des Homo erectus, parce qu'ils ont un crâne beaucoup plus développé, Ils ont voilà une morphologie un petit peu différente, mais ils restent quand même un peu primitifs. Donc en fait, tout ce qui n'était pas erectus tombait dans un paquet qu'on appelait, alors on les appelait soit des homo erectus évolués, soit on les appelait des homo sapiens archaïques.
Erectus, faut quand même dire que ça couvre un champ temporel qui est colossal. Voilà. Ça va de 1 million d'années à 100 000 ans. C'est vaste, c'est une grosse fourche.
Oui, oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, notre travail, ça va être beaucoup de revoir cette notion d'homo erectus. Et je pense qu'il faut... Alors, vous savez, il y a le grand moment où on va faire des synthèses et essayer de minimiser le nombre d'espèces. Il y a des moments où, à l'inverse, on multiplie, c'est les splitters, les lumpers. Et là, il va falloir justement un peu splitter, c'est-à-dire il va falloir un peu séparer, je pense, ce gros paquet erectus en petits paquets. Il y en a qu'on a déjà bien identifié. On a parlé de Zoukoudian, on a parlé des fossiles de Java. Ça, c'est quand même un groupe... qu'on peut attribuer aux Homo erectus, on peut en faire un ou deux, insulaires et continentaux, voilà, ça c'est les Homo erectus. Et donc, avant, il y a le fossile, par exemple, de Jungsian, autour d'un million d'années. Moi, j'avais montré qu'il était plutôt erectus, je revois un petit peu ma copie, si je puis dire, mais en tout cas, ce que je voudrais surtout dire, c'est que je pense que c'est pas strictement un Homo erectus, voilà, c'est pas strictement un Homo erectus, ça ne fait pas de lui non plus un Homo sapiens, mais c'est pas strictement un Homo erectus parce que c'est vrai qu'il a pas tous les petits caractères justement qu'on trouve à Zoukoudian ou à Java. Et puis après, en plus récent, on a les Dali, Harbin, etc., qu'on mettait dans ce paquet, on va dire, à l'Erectus évolué ou Sapiens archaïque, qui maintenant se trouvent dans cette espèce redéfinie Homo longi. Avec les ponts qu'on fait donc avec Denisova.
Hein. Voilà, parce qu'il y a deux études quand même récentes parues dans la revue Cell et Science cet été, la 2025, qui attribuent justement, enfin qui associent Harbin au Denisovien.
Voilà, donc là aussi ça se fait, alors, il faut décomposer la chose, ça se fait par l'entremise de la protéomique. Donc l'analyse protéomique qui va permettre de démontrer que il y a une relation entre la mandibule de Xiae, donc celle du Tibet, hein, et ce fossile justement de Harbin. Donc on met dans le groupe d'Homo longi ce lien où c'est Denisovien.
Mais on en revient justement à l'histoire de Jungsian 2, Homo longi, quelle parenté avec Sapiens, et pourquoi cette étude-là, éclaire selon les chercheurs, l'histoire d'Homo sapiens d'une autre lumière.
Voilà, parce que Homo longi, quand il est publié avec donc Harbin, la proposition qui est faite de cette espèce, est tout de suite, dans l'analyse phénétique, ressort tout de suite comme une espèce un peu sœur d'Homo sapiens. Voilà. Donc on a déjà cette idée un peu sous-jacente, parce que espèce sœur, et comme c'est des fossiles qui sont plutôt, on a dit, autour de 200 000 ans, etc., on a un peu l'idée sous-jacente qu'il puisse y avoir quand même une alors c'est pas une origine des Homo sapiens en Chine, c'est plutôt une histoire d'évolution un peu réticulée, c'est-à-dire que depuis cette souche africaine, il y a beaucoup d'hybridation avec les Homo erectus locaux, les populations locales, voilà, et donc il y a cette émergence des Homo sapiens en Chine via cette
homologie. Donc du coup, il y aurait une souche chinoise d'Homo sapiens, c'est ça à peu près ce que cherchent à prouver ces chercheurs.
C'est à peu près l'idée. Alors là, on en était là quand on avait que Harbin dans Homo longi. Comme cette analyse phylétique telle qu'elle est menée, eh ben, elle place dans le même groupe, dans le même clade, Jungsian, qui lui a 1 million d'années, ça leur permet de montrer que cette Homo longi s'enracine il y a 1 million d'années. Et comme ils font des calculs, mais là encore, ce sont des probabilités, c'est une proposition qui est faite pour essayer de voir ces dates de divergence dans ces différentes lignées, dans ces différents clades, eh bien, ils calculent que ces ancêtres communs entre Homo sapiens et Homo longi ont dû vivre entre 1,3 million et 1 million d'années. Donc, c'est le fossile de Jungsian.
Alors, merci beaucoup à vous, Amélie Viallet, de nous avoir exposé les raisons de cette controverse. On peut penser aussi éventuellement à des raisons peut-être plus politiques, de soft power, éventuellement dans cette quête d'une origine de sapiens en Chine. Si vous voulez y voir plus clair dans toutes ces familles du genre homo, on peut aussi écouter un excellent podcast en 8 épisodes produit sur France Culture par Franck Bessière et réalisé par Nathalie Battus. Amélie Viallet, vous êtes la conseillère scientifique de ce podcast et la narratrice de ce podcast intitulé « Retour vers la préhistoire ». C'est à écouter bien sûr, sur l'appli Radio France et sur le site de France Culture. Merci à nouveau Amélie Viallet d'être venue nous parler de cette controverse.
Merci à vous.
Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe. Vous pouvez écouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.